de moi, je prends un peu de mouvement et au Cachin oriental. Je refuse totalement cette
histoire. Moi, j'ai essayé de vous combattre au Cachanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux principes de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci d'écouter Radio Capi sur vous et bienvenue dans ce débat citoyen. Le secteur de l'enseignement en RDC connaît des avancées significatives d'après les affirmations du responsable de l'UNESCO dans les mondes. Au nombre de ces avancées figurent notamment des réalisations dans la scolarisation des filles, la réduction sensible du taux de perdition scolaire, l'amélioration de la position de RDC dans la lutte pour l'éducation pour tous. Certains observateurs estiment que ce bilan ne reflète pas la réalité sur le terrain, tandis que d'autres sont d'avis que les avancées sont réelles et palpables. Alors, qu'en pensez-vous ? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890-7315 pour votre intervention en direct. Philippe Zabongoda est au standard. Sylvain Matundu est à la mise en onde de ce programme réalisé par Pierre Lamégie. Cette émission est coordonnée et présentée par Gilles Nguébo sous la supervision de Martin Sebujani. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Nous avons le réel plaisir de recevoir dans ce studio M. Mathieu Mwangu, ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour, cher ami.
Voilà, si vous permettez, on va passer de l'autre côté du standard pour écouter d'abord quelques auditeurs qui nous ont rejoint dans cette émission pour nous éclairer ou aussi nous permettre de nous évaluer un peu par rapport à cette thématique, par rapport à leur compréhension sur la question que nous posons aujourd'hui. Alors, Justin, vous êtes à Ouvira, vous avez le plaisir d'ouvrir les débats. Justin, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, Pico.
Vous avez la parole, Justin.
Oui, à l'entrée du jeu, je salue son excellence le ministre, M. Mathieu Mwangu-Famba. Je voudrais dire ceci, M. Perrault. Certaines données qui sont données par ou les statistiques données par les services des Nations Unies, quelquefois, elles sont trompées. Parce que si on aborde les fonds, on trouvera qu'il n'y a rien. Nous qui parcourons souvent les villages dans la plaine de la Ruse et les moyens plateaux, les hauts plateaux, ce qu'ils ont donné, c'est très différent de la réalité.
Et qu'est-ce que vous avez comme réalité sur le terrain, à Ouvira?
Oui, à Ouvira, les filles ne sont pas souvent scolarisées parce que les moyens, si vous avez 3 ou 4 enfants, on privilégie toujours les filles pour aller aux études, et on privilégie souvent les garçons pour aller aux études, et on laisse les filles à la maison. Parce que les familles n'ont pas suffisamment de moyens pour prendre en charge tous les enfants. Parce qu'on en parle maintenant pas dans les villages où on facture chaque fois. C'est le pire. Vous avez les filles qui n'ont même pas un niveau de 4 primaire, qui n'ont même pas foulé l'été à l'école. Suite au manque de moyens, les parents sont démunis, très démunis. Et alors, les opérations des Nations Unies vont nous dire qu'il y a des avancées. Que peut-être dans des villes à Kinshasa, à Lubumbashi, pas ici chez nous. Peut-être que ce filier, c'est de donner envie, mais au village, rien ne va, s'il vous plaît.
Donc pour vous, la réalité sur le terrain ne reflète pas le bilan qui a été présenté et que vous rejoignez donc certains observateurs qui estiment que ce bilan ne reflète pas la réalité sur le terrain. Mais il y a d'autres, comme je l'ai dit tantôt, qui font d'avis que les avancées sont réelles et palpables. Alors là, vous venez d'évoquer les cas de scolarisation des jeunes filles à Ouvira. Le taux, selon vous, par rapport à ce que vous observez au quotidien, est très faible. Pourquoi? Pour quelles raisons? On ne sait pas. Alors nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio les ministres qui pourraient nous éclairer. 081-890-7315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, monsieur le ministre, nous ouvrons ces débats par rapport à, comme nous l'avons dit, trois avancées à mettre à l'actif aujourd'hui du système éducatif de la RDC, notamment la scolarisation des jeunes filles, la réduction sensible du taux des perditions scolaires et l'amélioration de la position de la RDC. Alors, à commencer par la scolarisation des jeunes filles, vous venez d'écouter un témoignage à partir de Vira. À Ouvira, il se pose encore un problème en ce qui concerne la scolarisation des filles. Je parie que ça peut être l'arbre qui peut cacher la forêt, et peut-être que c'est aussi la situation ailleurs.
Oui, j'ai fallu notre ami Vistel qui nous appelle de Ouvira. Bon, je vais lui demander de nous... Nous sommes en train d'exploiter les statistiques et nous sommes en train de voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Je ne pense pas que les Nations Unies peuvent dire des choses qui ne sont pas vraies. J'aimerais dire à notre ami Vistel, peut-être qu'il serait très content si les données étaient contraires. Si on disait que non, la République démocratique du Congo n'avait pas de bons résultats, peut-être qu'il serait content. Non, nous ne pouvons pas continuer avec cette stigmatisation. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est donnée un exemple. C'est un pays qui a fait des avancées énormes dans le domaine de l'éducation. Et ça, c'est toutes les données, qu'il s'agisse de la parité. En 2001, on était à 0,6. Aujourd'hui, on est à 0,92. C'est-à-dire, le nombre, je donne les statistiques au niveau du primaire. C'est-à-dire que les jeunes filles commencent à fréquenter beaucoup les écoles. À Kinshasa, il y avait beaucoup plus de filles que de garçons. À Lubumbashi, c'est moitié-moitié. Mais il y a des coins où il faut effectivement fournir beaucoup d'efforts. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de jeunes filles qui vont aujourd'hui à l'école. Quand nous prenons les taux bruts de scolarisation, en 2007, au total, nous étions à 62% de taux bruts de scolarisation. Aujourd'hui, nous sommes à 116. Peut-être que les gens vont me demander pourquoi on dépasse les 100. On dépasse les 100 parce que le système est en train de récupérer tous ces enfants, toutes ces jeunes filles, tous ces jeunes garçons qui n'avaient plus de sens d'aller à l'école. C'est vrai que le fossé est encore énorme, mais en tout cas, les avancées qui sont là sont palpables. Moi-même, je viens de faire une tournée dans le Olomami. J'étais dans les Lualaba et j'allais parfois dans les villages assez les reculés. Mmh. Mais il faut voir le nombre de jeunes filles qui vont à l'école. Je crois qu'il y a beaucoup d'avancées et ces avancées ne sont pas données seulement par les gouvernements, elles sont données par les systèmes des Nations Unies. Et nous avons reçu dernièrement la directrice générale de l'UNESCO avec l'envoyé spécial des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, Golden Brown, pour dire au président de la République, Joseph Kabila, pour dire au premier ministre, vous êtes dans le bon. Ce n'est pas que vous avez un tel bon résultat, mais vous êtes dans le bon. Si vous continuez avec ces efforts, nous allons atteindre de bons résultats. Donc tous les enfants congolais deviendront des élèves.
Alors qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'amélioration de la position de la RDC dans la lutte pour l'éducation pour tous et les cas concrets?
Donc ce sont toutes ces différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement. Vous vous souvenez, il y avait beaucoup d'enseignants qui n'étaient pas payés, qui n'étaient pas pris en charge, qui n'étaient pas les trésors publics.
Les nouvelles unités,
et le gouvernement a fait d'énormes efforts. Quand, en 2007, par exemple, nous n'avions que 200 000 enseignants qui étaient payés, sous les 600 000, et tous les autres enseignants, donc 400 000, étaient pris totalement en charge par les ménages. Et les parents qui n'avaient pas de ressources, facilement, ils récupéraient l'enfant ou ils récupéraient la jeune fille. Maintenant que nous, le gouvernement paye les enseignants, on va me dire, on va polémiquer là-dessus pour dire peut-être que ce n'est pas important. Ce n'est pas beaucoup. Quand vous allez dans les milieux ruraux, vous allez voir comment les enseignants sont contents quand les salaires arrivent. Aujourd'hui, on paye ces enseignants. En tout cas, l'ego est payé. L'ego de personnel enseignant est payé. Il y a encore des enseignants qui ne sont pas encore payés. Nous avons toutes les statistiques. Mais beaucoup sont payés. En peu de temps, on a pu payer presque 200, plus de 200, 250, 200 000 enseignants supplémentaires. En peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'est la conséquence? La conséquence, c'est que ces enseignants qui sont pris en charge maintenant par les trésors publics ne demandent plus beaucoup de ressources chez les parents. Et les parents sont... amène maintenant et les filles et les garçons à l'école. Il faut aller dans les milieux ruraux pour voir vraiment ce qui se passe. En plus, s'il vous plaît, je voudrais ajouter le problème de construction des écoles que nous sommes en train de construire à travers toute la
République. 1000 écoles.
Oui. Bon, on n'a pas encore atteint 1000, nous sommes autour de 750. Ces écoles qui sont construites à travers la République ont quelque chose d'assez particulier. C'est un problème qu'on néglige souvent, le problème des latrines. Et on va voir que toutes ces écoles où il y a, qui sont vraiment de très belles écoles avec des latrines Et quand vous visitez ces écoles, vous allez constater que vous avez beaucoup plus de jeunes filles, de petites filles, que de garçons. Mmh. Nous avons lancé l'initiative du pré-primaire. Hein, le pré-primaire, nous avons ouvert seulement 1000 classes à travers la République. Mais le taux est toujours en faveur de la jeune fille. Donc, toutes ces mesures sont prises pour encourager les parents à amener la jeune fille.
Alors, pour parler de l'amélioration...
Le problème maintenant, c'est quand nous allons au niveau secondaire. C'est là que les données sont inversées. Hein, de petit à petit, certains parents commencent à récupérer leurs enfants, il y a des mariages précoces, il y a beaucoup de problèmes que nous sommes en train de combattre pour que la jeune fille qui arrive aussi au secondaire puisse terminer le secondaire, afin que nous ayons un beau taux de parité aussi au niveau de secondaire, c'est amélioré.
On ne peut pas parler de cette amélioration de la position de l'RSC dans la lutte pour l'éducation pour tous sans pour autant mettre l'accent sur la question de la gratuité, article 43 de la Constitution.
Ouais. Bon, on polémique beaucoup là-dessus aussi. Hein, je suis arrivé dans des coins assez reculés, encore une fois, comme je l'ai dit. Moi, je suis au-delà de tout ce qu'on voit à la télé, les accueils et autres, j'ai toujours un petit temps pour poser la question aux élèves, poser la question aux parents, pour vérifier si ces différentes mesures que nous prenons au niveau national sont exécutées. Et c'est vrai que ça change parfois d'une province à une autre, ou d'un coin à un autre. Mais la mesure de la gratuité, au-delà de tout, c'est elle qui nous a permis d'avoir beaucoup, beaucoup d'enfants, et surtout des jeunes filles à l'école. Et les classes sont bondées aujourd'hui. Je vous ai donné les taux de scolarisation, qui est passé de 62% à 111%. Vous avez des classes parfois qui ont 150 élèves. C'est pas bon, mais bon, voilà. Mais ce que nous voulons, c'est qu'au moins les enfants viennent à l'école. Il pose un autre problème que nous allons maintenant
faire. 081-893-15 pour votre intervention en direct. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui, nous débattons sur le secteur de l'enseignement en RDC, selon certains témoignages du haut responsable de l'éducation au niveau de l'UNESCO, qui, reconnaît les avancées réalisées par la RDC. Alors, selon vous, quels sont vos commentaires et quel est votre avis?
Parole aux auditeurs.
Nous avons fini le premier quart d'heure de cette émission. Nous recevons, donc nous accueillons Jean qui est à Kinshasa et M. Adrien à Canada. Jean, merci de nous avoir rejoint et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci de m'accorder la parole. Moi, je voulais poser la question. C'est vrai qu'on insiste sur la quantité, donc le nombre d'enfants qui sont scolarisés. Effectivement, le ministre l'a dit. Moi, j'ai fait un tour aussi en province. J'ai été par exemple à Katanda, donc dans les Kasaï, où on peut voir effectivement des classes avec 198 élèves. Alors là, on peut se poser la question. C'est vrai, la gratuité est de mise, donc les enfants vont à l'école. Mais comment faire? Il faudrait, je pense, passer à la vitesse supérieure et d'imaginer qu'un enseignant ne peut pas s'occuper tout seul d'une classe de 198 élèves. Et quand je dis classe, c'est un gros mot, parce qu'en fait, c'est une hutte, hein, donc les enfants vont à l'école avec des batteries de voiture, vous voyez, des batteries de voiture qu'on a vidées, ils portent ça sur la tête, et sur ça qu'ils vont s'asseoir dans une hutte avec 198, ils sont 198 dedans, dans une chaleur épouvantable. Et de plus, quand il pleut, il n'y a pas école. Ah, donc je pense qu'on doit faire vraiment cet effort-là, d'aller dans les coins reculés, comme Monsieur le ministre le dit, et d'aller d'avancer dans ces constructions-là pour que la qualité, on puisse être classé aussi au niveau de la qualité dans ce classement de l'UNESCO.
Alors vous avez parlé des Katanda, là vous êtes dans quelle province?
Je suis à Kinshasa, mais j'ai eu l'occasion de voyager. Je travaille moi aussi dans le secteur de l'enseignement, hein, donc j'ai tout consultant qualité. Et donc je me suis rendu à Katanda dans le cadre.
Voilà, vous avez observé cette réalité. Alors une question aujourd'hui, c'est vrai, nous avons parlé de l'amélioration. Certes, il y a des avancées, mais il y a une autre opinion qui soutient qu'aujourd'hui, vu la multiplicité des frais exigés au niveau de l'enseignement, cela constitue quand même un obstacle. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, effectivement, donc ça c'est, ben, heureusement dans le Kasaï, il y a beaucoup, beaucoup plus d'écoles publiques, donc ce qui fait que beaucoup d'enfants sont scolarisés. Mais quand on va dans d'autres provinces comme le Katanga, où il y a beaucoup d'écoles privées, effectivement c'est un frein. Parce que imaginez, nous on parle du nombre des élèves qui sont inscrits, mais il faut voir ceux qui arrivent jusqu'au bout de l'année. Et donc ça c'est un problème effectivement, parce que dès le premier trimestre, on va commencer à chasser. Et pas plus tard que la semaine passée, j'ai été accompagner mon fils à l'école. Plus de la moitié d'élèves étaient dans la cour parce qu'ils n'avaient pas payé. Ah, donc, effectivement, c'est un obstacle auquel on doit s'attaquer.
Merci beaucoup, Jean, d'avoir appelé des Kinshasa et surtout d'avoir, de nous avoir fait part de ce témoignage sur les Katanga, où les enfants vont à l'école, ils étudient à même l'école, sous une minute. Ah, voilà, donc je crois que notre invité pourrait nous éclairer là-dessus. Et vous avez reconnu quand même que la majorité de l'école fonctionnant à Katanga sont dans la plupart des écoles publiques, ce qui fait qu'il y a un nombre important d'élèves qui vont, qui sont scolarisés. Merci beaucoup. Alors, Maître Adrien, vous êtes à Canada. Bonjour, Maître Adrien, et nous restons toujours au Kassai.
Oui, bonjour, cher Lungenbo. Bonjour à son Excellence, Monsieur le Ministre.
Quel est votre avis, Maître Adrien?
Oui, ce rapport-là est venu juste relayer mon constat. Donc, c'est après ma tournée sur l'étendue de deux Kassai, donc au Kassai central, et Kassai, donc, tout court, on a fait ce constat-là. J'étais à Ilebo, j'étais à Mweka, j'étais à Luebo, j'étais à Demba, j'étais du côté d'Imbelengue, et je me suis rendu compte que c'est vrai que l'UNESCO a fait un rapport correct, parce que même moi aussi j'ai fait un constat selon lequel il y a eu une amélioration. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles qui sont à l'école, et précisément au niveau primaire. Et puis j'ai eu même à épingler au niveau des chaînes locales certaines difficultés qui font à ce que lorsque nous arrivons au niveau des humanités, qu'il y ait une baisse donc des taux de filles, entre autres, les problèmes de certificats de
d'études primaires.
Oui, oui. Mmh. Donc les certificats se posent, donc c'est devenu un sérieux problème. On a donné un cas avant-hier à Mutoto. Vous allez vous rendre compte que ces enfants-là qui avaient déjà terminé leurs études, ils ont dû mettre 9 à 10 mois pour recevoir leur certificat. Et c'est ce qui fait que devant de telles situations, les filles se découragent. Et c'est un cas un peu général parce que cette léthargie est due aux frais exigés d'une manière ou d'une autre. On vous dira que non, non, c'est pour peut-être la garde, ainsi de suite. Deuxième difficulté, qui fait aussi à ce que, au niveau des humanités, qu'il y ait cette baisse, c'est cette multiplicité de frais. Vous serez d'accord avec moi, lorsque vous arrivez dans une école qui n'a rien à voir avec la Sentinelle, on dit non, chaque élève est obligé de payer 2000 francs frais de la Sentinelle. Et vous demandez, il n'y a aucune Sentinelle. Or, chaque élève doit payer donc 1000 francs ou 2500 francs les frais de bureau. Donc, tous ces frais-là, lorsque vous les additionnez, ça pèse vraiment dans la balance de parents. Et c'est ce qui fait que bon, ceux-là qui ne sont pas bien préparés disent que non, autant mieux sacrifier donc les filles pour continuer avec les garçons, avec les conséquences qui peuvent s'en suivre avec
merci
la
beaucoup.
Qualité des
merci,
filles.
Merci beaucoup. Et puis, troisièmement, rapidement, oui.
Oui, maintenant, là où j'aimerais maintenant proposer à son Excellence, Monsieur le Ministre, c'est vrai que j'ai fait cette tournée-là, mais il y a un constat maire, comme mon prédécesseur Jean venait de le dire. Par exemple, à Ilepo, il n'y a que, donc, dans le programme du gouvernement, il n'y a qu'une seule école qui était construite, c'est juste au niveau du Grand Marché, Epetusanka. Mais les restes d'école, il faut voir comment est-ce que les conditions dans lesquelles les enfants étudient.
Merci beaucoup.
Donc, quand même, les sols dans des hangars, et c'est pénible si le ministre pouvait un peu s'arteler de ce côté-là pour préparer aussi les conditions d'études des élèves. Je pense que ça sera un très bon démarrage.
Merci beaucoup, Maître Adrien. Nous comprenons que pour vous, l'inquiétude réside sur, disons, les intervenants dans la chaîne de l'enseignement. Ils sont tellement nombreux, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cela occasionne même la multiplicité des frais, on ne sait pas, et cela constitue également un obstacle pour certains enfants d'être scolarisés. On va terminer cette première série avec vous, Olivier. Vous êtes à Kipit. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs, Olivier.
Oui, Gilles, bonjour et bonjour à son Excellence et à tous les auditeurs.
Voilà, vous avez la parole pour, au fait, réfléchir ensemble avec nous sur les quelques avancées que nous avons annoncées dans cette émission, notamment la réalisation dans la scolarisation des jeunes filles et puis la réduction sensible du taux des perditions scolaires, ajouté à cela l'amélioration de la position de la RDC dans la lutte pour l'éducation pour tous. Qu'est-ce que vous avez observé sur le terrain?
Et moi, je pense d'abord qu'il faudrait dire que ça, c'est un rapport qui que je pense être un rapport tout à fait politique. Parce que sur le terrain, moi je ne sais pas si franchement le ministre peut être satisfait de ce qu'il y a sur le terrain. Je crois d'abord la qualité de l'enseignement. Je peux aujourd'hui accepter que les filles, on en voit beaucoup sur le chemin de l'école, mais pour aller apprendre quoi? Parce que nous savons tous très bien que nos enfants finissent les études primaires sans savoir conjuguer le verbe avoir. Et de plus en plus, ils vont jusqu'aux humanités, aux examens d'État. Les résultats de l'examen d'État sont toujours catastrophiques, bien que le taux de réussite est très élevé. Mais nous savons que la réalité dans la tête des enfants, c'est une réalité très peu décevante. Et le ministre en est conscient. Alors, je vais lui poser une petite question. Est-ce que ce n'est pas une autosatisfaction qui n'est pas justifiée sur le terrain? Parce que, quel régime, qu'est-ce que nous constatons? Vous venez trouver des avancées, c'est vrai, dans le nombre d'écoles. Ça, je peux l'avouer. L'école est bien sûr une école par famille. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces écoles? Vous avez des élèves qui ne font absolument rien. Nous avons notre problème. Nous avons les écoles privées, les écoles publiques, et nous avons parfois des programmes assez différents. Dans les écoles privées, on vous dit non, nous avons été formés par des Suisses, les enfants doivent écrire comme ceci. Dans les écoles publiques, c'est toujours l'écriture que nous avons apprise, et les élèves écrivent différemment selon qu'ils sont dans une école privée ou dans une école publique. Et à la fin, ils ne savent plus écrire. Majuscule, minuscule, les enfants ne connaissent pas.
Et voilà. Rapidement, Olivier.
Oui. Donc, je pense qu'il faudrait pas commencer le
voilà. Situation. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Je crois que, y a beaucoup de choses qui sont un peu discutables, hein. Notre invité pourrait y revenir. Parce que quand vous évoquez, par exemple, les cas de la qualité de l'enseignement, nous avons reçu des messages de certains auditeurs qui, en fait, font des réflexions très simples. Est-ce des gens qui forment les élèves, aux humanités? Ne sont-ils pas des produits des universités? Donc, la responsabilité est partagée. Étant partagée, je crois que nous devons, à ce niveau, voir à quel niveau il y a eu erreur, et comment les corriger. Merci beaucoup. 081-890. 63-15 pour votre intervention en direct.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen. Nous poursuivons avec vous, chers auditeurs, mais aussi avec notre invité qui est dans ce studio, monsieur le ministre Mathieu Mango. Vous venez de suivre cette première série des auditeurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes en ce qui concerne la réalité sur le terrain, à Katanga, à Ilebo, à Lomami, à Kalemi. Bref, il y a quand même des problèmes aujourd'hui. Certes, il y a des avancées, mais il y a également des défis qui restent encore à relever.
Oui, je partage avec vous cette opinion. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avancées, mais il y a aussi beaucoup de défis. On ne peut pas rajouter ces avancées. On ne peut pas. Je remercie vraiment Jean-Adrien et Olivier. Je veux dire que, comme l'a fait Jean et Adrien, c'est vrai. En tout cas, vous allez dans le village, vous allez trouver qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants dans nos écoles. Et quand ils viennent maintenant au niveau de l'école, se pose d'autres problèmes que nous pouvons et nous devons résoudre tous. Jean parle de cette problème, le fait que les enfants vont à l'école parfois avec leur propre siège pour s'asseoir, avec les batteries, et puis quand ils arrivent, c'est dans une hutte, tout ça. C'est vrai, ce sont de vrais problèmes. Hein. Nous ne pouvons pas les résoudre. Alors, quand nous sommes arrivés au niveau du ministère, la première chose que nous avons pu faire, c'est avoir une stratégie de 5 ans pour dire quels sont les problèmes que nous devons résoudre au niveau de notre secteur éducatif pour aller de l'avant. Et pour cette stratégie, l'élément clé pour nous, après avoir reçu les instructions du président de la République, c'est lancer la gratuité de l'enseignement national. Et quand on a au niveau de l'école primaire, et quand on a lancé cette gratuité, vous avez ces taux qui changent. Et ces données ne sont pas des données falsifiées, non. Ce sont des données réelles. Vous avez les taux d'abandon. Il était à autour pour la jeune fille au niveau primaire. Il était à 14%. On a ramené ça à 8%. C'est la réalité.
Alors, nous voulons que nos amis soient quand même assez conscients, et nous sommes aussi conscients de toutes ces difficultés que nous avons, mais nous avançons. Nous ne pouvons pas un seul instant nous décourager.
Pas du tout.
Au contraire, nous lisons ce qui est sur le terrain. Et comme vous l'avez dit, ce sont les données qui sont partagées par l'UNICEF, par l'UNESCO, par la Banque mondiale. Ce sont ces données-là que nous partageons grâce aux mesures que le gouvernement est en train de prendre. Alors, quand je prends justement à cause de cette stratégie-là, nous avons dit on lance la gratuité, mais nous avions effectivement certaines difficultés en ce qui concerne la scolarisation de la jeune fille. Et nous avons négocié avec certains partenaires pour lancer un vaste projet qu'on appelle Vasifi, pour encourager parfois la jeune fille à aller à l'école. Nous faisons ça avec le gouvernement britannique. Et nous avons pris un certain nombre de provinces qui nous posaient vraiment des problèmes, notamment l'Équateur ou la province orientale, le Katanga, ainsi que le Kasaï oriental, où nous avons constaté que là-bas, il n'y avait pas beaucoup de filles à l'école. Et les résultats sont là en train de nous donner raison. On donne parfois des petites bourses à ses parents pour leur permettre de réaliser une activité génératrice des ressources qui peut leur permettre maintenant d'amener la jeune fille à l'école.
Olivier a insisté sur la qualité de l'enseignement. Il y a même un auditeur qui nous a demandé est-ce que le ministre peut épiloguer sur la qualité de l'enseignement assuré dans les écoles. Ça, c'est difficile.
Voilà. Je suis en train d'aborder le problème. Le problème de l'éducation, c'est de les aborder sous trois angles. Il faut tout faire que tous les enfants aillent à l'école. C'est ce que nous sommes en train de faire et avec ces différents résultats que nous avons, les taux de scolarisation qui est en train de vraiment de s'améliorer nettement. C'est vrai, maintenant quand les enfants arrivent à l'école, ils ne viennent pas pour tailler bavette. Bien que l'école constitue déjà un milieu de socialisation. Il se pose maintenant un autre problème, celui de la qualité de l'enseignement. Ils viennent pour apprendre, et ils apprennent quoi? Alors, la stratégie, comme je l'ai dit, la première stratégie mettait l'accent sur la mesure de la gratuité. Nous venons d'aborder maintenant une autre stratégie décennale, de 10 ans, qui a commencé cette année, jusqu'à 2025, je crois. Et là, nous avons dit que c'est la qualité qui est la colonne vertébrale. Et la qualité, nous mettons l'accent sur la formation de l'enseignant. Nous mettons l'accent sur la formation de l'enseignant parce que c'est l'enseignant qui doit fournir des efforts pour que les enfants, qui doit transmettre ses connaissances auprès des enfants. Là, s'il y a des faiblesses, c'est vrai que l'enseignant va transmettre ses mêmes faiblesses auprès de nos enfants. Nous avons distribué les manuels, 40 millions de dollars pour distribuer les manuels dans toutes nos écoles. Je venais de faire une très mauvaise expérience dans une école. J'arrive par hasard, je prends un manuel, un élève qui est en sixième année, je lui donne le manuel qu'il est censé connaître. L'élève n'arrivait pas à lire. Et j'étais avec beaucoup d'autorités politico-administratives ainsi que les responsables du secteur. Je les ai tous interpellés. Mais l'interpellation va aussi chez les parents. Comment vous avez votre enfant qui est en troisième, quatrième primaire, chaque matin, vous lui préparez la casse-croûte pour qu'il aille à l'école. Parfois, vous lui dites, vous lui donnez rien. L'enfant rentre à la maison, vous ne pouvez même pas vérifier si l'enfant peut lire. Mais plus que ça, lire. Je me suis arrangé avec nos amis quand je suis allé au Katanga, j'ai dit, bon voilà, nous faisons une petite expérience. Vous prenez l'enfant qui rentre à la maison ce soir, donnez-lui n'importe quoi. Je sais que dans chaque maison au Congo, il y a quand même la Bible. Donnez-lui ne plus que ça, pour que l'enfant vous démontre est-ce qu'il peut lire. Si vous constatez que l'enfant ne peut même pas déchiffrer ce que vous lui donnez comme livre à lire, rentrez à l'école. Aller à l'école, voir son enseignant pour dire, mais c'est pas possible. Je dépense beaucoup d'argent, je paye quand même
le résultat
n'est pas là. Ça va permettre à ce qu'il y ait quand même un débat autour de l'école sur l'amélioration de la qualité. Il ne faut pas qu'on attende tout le temps pour dire, vous arrivez à la fin de l'année, l'enfant arrive en sixième, l'enfant qui ne pouvait pas lire, que j'ai vu dans une école, cet enfant, dans un village quelque part, cet enfant était en sixième. J'ai dit, cet enfant a 12 ans. Donc, 6 ans, 7 ans, 8 ans, les parents n'ont jamais su que cet enfant n'était pas
né. Est-ce que, monsieur le ministre, le fait d'impliquer les parents, c'est pas empiéter à un travail qui devait être fait par les inspecteurs?
Non.
L'effectif des inspecteurs.
Les meilleurs et les plus grands inspecteurs, c'est les parents. C'est les meilleurs. Vérifiez vous-même. Si vous ne pouvez pas, faites vérifier par quelqu'un d'autre. Quand vous voyez nos parents, moi j'ai mon père qui est décédé, qui était un ancien inspecteur. Son père ne savait ni lire ni écrire. Mais comment lui, il a su
Libre.
Donc, il avait quand même, il son père faisait une pression sur lui pour que, et l'enseignant, et lui-même, et l'enfant, prennent au sérieux les études. Donc, nous tenons, nous demandons, nous interpellons vraiment nos parents. Hein, j'espère que Jean, Adrien et Olivier vont nous aider pour ça, pour que chaque parent vérifie quand même si l'enfant n'est plus que digne, le minimum.
Parce qu'il fait partie de
le minimum. L'école n'est pas un prêt. Parce que j'ai suivi notre ami Olivier parler de prêt et tout ça. Et même, je crois que c'est Adrien qui parle de
prêt. Adrien,
oui, vous avez votre enfant, on vous demande les prêts, et puis vous allez donner comme ça, sans savoir est-ce que ces prêts sont inscrits dans une circulaire qui est partie du ministère et qui est aussi signée par les gouverneurs de province. Aujourd'hui, même par les commissaires, on va retrouver encore les gouverneurs bientôt. C'est ça, il faut vérifier, et si ce n'est pas fait, régulièrement, il faut que les parents se retrouvent au niveau du comité de parents et autres pour discuter du fonctionnement de l'école. Pas toujours pour payer les prêts, mais pour examiner aussi la qualité de l'enseignement. Donc, maintenant, au niveau de notre stratégie, nous disons voilà.
On va revenir sur les prêts. Il y a deux auditeurs et trois qui nous ont rejoints déjà. Il y a Jean qui est en Bandaka et Omar à Kinshasa. Jean, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, merci de nous accepter à l'émission. Nous disons aussi bonjour au ministre. Nous lui disons aussi nos félicitations parce que il est devant une forêt équatoriale qui doit pouvoir percer. Il y a beaucoup de défis malgré ces félicitations qu'on vient de nous adresser. Mais il y a encore beaucoup de chantiers. Je cite quelques-uns. La surpopulation des élèves, ça, on a déjà parlé de ça. Parce que quand un enseignant a pris d'élèves, il ne fait pas faire travailler chaque élève. Deux, le problème de motivation des parents. Aussi longtemps que les parents continueront à soutenir les enseignants, alors les parents seront toujours obligés à
arrêter. En charge des enseignants par les parents.
Oui. Il sera obligé au moment d'arrêter. Parce que, à l'école primaire, par exemple, ici en Bandaka, c'est aux environs de 5 000. À l'école secondaire, c'est presque 10 000 chaque mois. Et si on a 5-6 enfants, à l'école secondaire, c'est tout un salaire qui est bougé. En plus de cela, les écoles, en tout cas, il n'y en a plus assez. Si on voit maintenant la démographie de notre pays. Donc, il y a beaucoup plus d'enfants et d'adultes.
Donc, il y a un
bon programme de 1000 écoles, maintenant que cela s'accélère. Donc, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, mais nous devons encore travailler de ce côté-là pour qu'on ait une classe à 30, 35 enfants tout au plus.
Quelqu'un recommandé
de l'enseignant à l'État.
Merci.
Et j'ai eu cette occasion pour dire au ministre, je suis un prêtre, je suis curé d'une paroisse, j'ai commencé une petite école maternelle, j'ai déjà moi 95 enfants et je fais étudier dans les neuf de mon église. Mais on pense aussi à nous. Nous sommes dans un quartier vraiment défavorisé, le quartier de Pessengue. Je pense que le ministre prend note, nous sommes en Bandaka. Si nous pouvons avoir une école primaire ici et une école maternelle, c'est une très bonne chose. Merci,
voilà, merci
de m'avoir accepté. Si
merci, monsieur l'abbé, d'avoir appelé de Bandaka et aussi de nous avoir transmis ce souci aujourd'hui d'avoir une école publique. Au niveau primaire, ou encore peut-être pré-maternelle, voilà. Alors, au niveau de Bandaka, ça vous ferait énormément un plaisir. Merci beaucoup d'avoir fait ce plaidoyer. Omar, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Gérard, bonjour à monsieur l'invité, monsieur le ministre.
Vous avez la parole, quel est votre avis, Omar?
Merci beaucoup, Gérard. Nous l'avons toujours dit que l'accès à l'éducation, c'est un indicateur de développement d'un pays. Ce n'est pas une faveur que le gouvernement donne à la population, c'est un droit fondamental. Voilà pourquoi je dis félicitations au ministre et à tout le gouvernement pour ses avancées. À part de là, nous remarquons aujourd'hui la publication rapide des résultats, la bancarisation de la paix des enseignants, aujourd'hui le taux élevé des jeunes filles à l'école et le système primaire. Félicitations, monsieur le ministre. Mais il y a encore des fois qu'il faut être discuté et qu'il faut être solutionné, honnêtement le terme. Premièrement, je voudrais m'appeler sur la qualité de l'enseignement. Le ministre est conscient de cette qualité médiocre. pas médiocre parce que l'enseignement ou le livre ne manque pas, mais parce qu'il y a certains paramètres, notamment les recrutements complaisants. Aujourd'hui, j'ai un petit peu qu'on recrute pour enseigner. Au niveau des écoles publiques, c'est le préfet qui recrute. Au niveau des écoles privées, c'est les promoteurs. Mais qu'est-ce que font les inspecteurs pour être sûrs de la qualité de celui qui doit enseigner? Il y a un problème. Deuxièmement, à part l'aspect en avant du recrutement, il faut encore vérifier ce qu'on enseigne aux enfants. Est-ce conforme au programme national? Les inspecteurs ne passent pas. Moi, je ne connais des écoles qui ont fait 3 ans d'inspecteurs. C'est pas que c'est une émission, mais pas une émission de dénonciation, mais j'aurais pu citer. Il y a aussi un problème chier du renforcement des capacités. Aujourd'hui, la science a évolué. La science n'est pas statique, elle est dynamique. Il y a par exemple les programmes Sésame pour le cours de français. Combien de professeurs de français les connaissent? Il y a des gens qui maintenant encore avec des anciennes méthodes qui défavorisent les enfants. Est-ce que les inspecteurs le contrôlent? Est-ce qu'il y a un programme de renforcement des capacités des enseignants? Voilà les points qui faillent être discutés et arrangés. Deuxième chose, nous avons déploré, il y avait une émission sur la radio capricieuse, mais incohérente dans la gestion tarifaire. Il y a l'inspecteur principal qui prend un tarif, il y a des sujets qui viennent annuler. Heureusement, le ministre a pris la décision en dernier lieu et les gens ont essayé de se réinduire. Jusqu'à ce jour, on n'a pas remis ce frais aux parents. Troisième chose, j'ai fini par l'agir. J'ai fait un constat, la plupart de nos programmes ne s'adaptent pas à nos réalités. Tendez votre micro, demandez aux enfants qui viennent de l'école s'ils connaissent des actrices qui ne passent pas, s'ils connaissent, ils montent une banque, ils ne connaissent pas. Ils connaissent la ville de Houston, Otto Bismarck. Nos programmes ne s'adaptent pas à nos réalités. On a fait le temps aux enfants que Simon Kimbang a fait 30 ans en prison pour avoir demandé l'indépendance, mais on nous en fait plus que l'histoire. Si dans la prochaine, on pourrait soigner ces choses, notamment en adaptant à nos réalités, ça serait une très bonne chose.
Merci beaucoup.
Si hier j'ai fini, pour améliorer la rémunération, parce que c'est vrai de bancariser, c'est bien de régulariser, mais les plus fonctionnent, mais comme ça, on va être suffisamment motivé. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Omar, d'avoir appelé de Kinshasa. Et nous prenons Franck, qui est également de la même ville. Franck, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, aussi nos respectueuses salutations à son excellence, monsieur le ministre.
Quel est votre avis?
Merci beaucoup pour la parole. De temps en temps, j'interviens à partir de l'étranger, mais depuis quelques mois, je suis au Congo. Je suis personnellement, disons, formation impliquée dans un projet de développement et dans le volet de mon projet, il y a aussi la construction ou la réfection des bâtiments d'une école d'un village Kibuanga dans la paroisse de Djouma dans le territoire de Bulungu. En suivant l'introduction de l'émission, je suis content parce que depuis que je suis là, j'ai sillonné certains coins vraiment reculés de la République. Je peux reconnaître qu'il y a des efforts qui sont louables, pour lesquels nous sommes tous contents. Mais en toute honnêteté, nous devons aussi le dire à son excellence, monsieur le ministre, que les avancées, on les reconnaît, il y en a déjà. Mais les défis que nous devons relever sont encore énormes. Je crois que le problème qui peut nous intéresser, c'est de nous dire d'abord le nombre d'écoles maternelles, primaires et secondaires que notre pays a, et si le ministre peut nous dire combien d'écoles ont des infrastructures vraiment respectables et complètes. Puis, je peux vraiment lui dire, parce que là, je parle à base de certains documents, dans certaines écoles, monsieur le ministre, 2/3 des enseignants sont encore impayés. Pour certaines écoles, les dossiers de ces enseignants sont déposés chez vous au ministère depuis plus de 3 mois, mais jusque-là, il n'y a aucune réaction. Donc, parfois, si nous devons évaluer ce qui se fait chez nous à base des statistiques, je trouve que le danger, c'est quand nous sommes à Kinshasa, nous sommes dans une ville comme Kikwite, nous sommes dans une ville comme Bandundu, nous sommes dans certaines villes du Kassai ou dans les Bas-Congo, je suis plus fréquent maintenant, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Mais quand vous allez vers les coins les plus reculés, il y a parfois des élèves qui se retrouvent là dans une salle de classe en hutte, sans tableau, sans banc. Et quand on doit d'abord voir les conditions dans lesquelles ces enfants sont formés, monsieur le ministre, ça laisse à désirer.
Ça laisse à désirer. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Kinshasa. Nous revenons à vous, monsieur le ministre, par rapport à toutes ces interventions. Quelle est votre réaction?
Encore une fois, je remercie l'abbé Jean, je remercie Omar et Franck, surtout pour les conseils qu'ils donnent, qui nous permettent effectivement d'améliorer le travail que nous sommes en train de faire. J'aimerais vraiment insister auprès de l'abbé Jean pour dire qu'on ne dort pas sur le laurier. On ne peut pas dormir sur le laurier. Les défis sont tellement énormes qu'il n'y a pas
de temps à perdre.
De temps à perdre.
Mmh.
Par contre, j'aimerais aussi insister sur le fait que quand il y a des avancées, il faut les dire. Les avancées sont là. J'ai dit qu'au niveau du secteur, il y a trois aspects importants. Il faut que les enfants viennent à l'école, que les enfants apprennent et que l'école soit bien gérée. Alors, si nous avons résolu un problème important, c'est lui que
la scolarisation.
Mais les enfants aillent d'abord à l'école. Quand ils arrivent à l'école, ils se posent maintenant devant nous d'autres problèmes, d'autres défis énormes qui sont là. Que nous devons aussi nous devons résoudre. Il y a beaucoup de postes qui sont fournis. Je tiens vraiment à remercier surtout Omar pour les différents éléments qu'il a donné.
Qui a donné les paramètres, le recrutement,
des
enseignants, ça, le programme.
Sur la qualité. Ce n'est pas pour rien que nous avons décrété un quinquennat de la qualité. Parce que le problème de la qualité, il faut le prendre à bras le corps. L'enseignant qui arrive à l'école, est-ce qu'il met suffisamment de temps pour rester à l'école? Il y a certains pays où les enfants passent presque toute leur journée à l'école. Comme surtout dans en Chine et ailleurs. Mais vous avez des pays, par exemple en Europe du Nord, où les enfants passent 5-6 heures seulement à l'école. Mais la qualité entre les deux, on constate que non, entre les deux, on a presque le même résultat. Donc, il faut vraiment fournir des efforts pour voir est-ce que l'enfant qui va à l'école, il passe suffisamment de temps à l'école. Est-ce que l'enseignant est vraiment devant lui? Mais tout ça, je cite sous le fait que nous devons travailler avec les parents. Le pays est énorme. Nous avons autour de 70 000 écoles. Mm-hmm. Et dans les 70 000 écoles que nous avons presque 30-35% qui sont construits dans des matériaux durables. Mais nous ne pouvons pas, pour scolariser nos enfants, attendre que tous ces enfants soient éduqués dans des conditions idéales pour qu'on leur donne la on les prend tels qu'ils sont et les défis sont là. Pour que nous arrivions à
avant de passer de l'autre côté des
États-Unis, ils ont posé beaucoup de problèmes, de programmes et tout ça. Nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de tout faire pour que les enfants aient une formation
de qualité.
Toutes les écoles primaires ont des frais de fonctionnement aujourd'hui. Nous donnons à chaque école primaire, chaque fois qu'on paye les enseignants, chaque école a autour de 45 000 francs. On va me dire que c'est pas beaucoup.
Mais
c'est fait justement pour permettre au chef d'établissement d'avoir tout un tableau. On ne peut pas me dire qu'on ne peut même pas avoir un triplex.
Ou un carton de craie.
Et ça, ça arrive chaque mois. C'est pourquoi je dis non. Il faut une certaine indévabilité. Il faut que les parents demandent des comptes à l'école. Il faut le faire. Nous allons commencer un projet assez important d'ici là. Nous commençons un projet pilote au niveau de la ville de Kinshasa. Nous allons prendre quelques écoles de l'enseigner avec un numéro de téléphone. Nous sommes en train de négocier avec le ministère des NTIC pour voir dans quelle mesure les parents peuvent de temps en temps nous donner des informations sur le fonctionnement même
des numéros verts.
Un numéro vert. Ils vont nous donner, nous allons avoir un serveur qui va collecter toutes ces données que nous allons traiter pour nous améliorer davantage notre gestion. Mais les premiers qui peuvent nous aider, vraiment, bien sûr.
Je vais passer de cette question avant de prendre aussi d'autres questions. Bon, les auditeurs qui ont insisté, que le ministre peut parler de l'adéquation formation-emploi. Bon, je ne sais pas par rapport à
ça. Mais ça, c'est l'efficience. C'est toujours dans la qualité. Parce que nous, on dit qualité et efficience. C'est-à-dire que la formation que nous devons donner aux enfants doit leur permettre quand même de résoudre un certain nombre de problèmes, surtout les problèmes de société. Et là, intervient l'efficience. Nous avons un objectif dans la stratégie dont je parler pour le moment, la stratégie décennale, c'est voir dans quelle mesure nous pouvons davantage professionnaliser notre enseignement.
Alors, qu'en est-il du renouvellement du personnel enseignant vieillissant?
Oui, c'est un problème très sérieux. Le gouvernement est en train de s'en occuper. Avec notre collègue de la fonction publique, on est en train de voir, et qui est en train de voir dans quelle mesure mettre en place la caisse de retraite pour les personnels dirigeants ou publics. Alors, ces parents pourront alors avoir leur retraite et pourront laisser la place aux nouveaux enseignants. Mais ceux-là, il faut les former parce qu'on constate malheureusement que ce sont les vieux-là qui sont très bons, malheureusement. Donc, il faut faire tout pour que les enseignants qui viennent C'est pourquoi dans la grande réforme que nous allons avoir, c'est avoir à travers la République ce que nous allons appeler les IFM, les instituts pour la formation des maîtres. Vous ne pouvez pas donner cours aux primaires si vous ne passez pas par cette école. Mais vous avez votre diplôme d'État, vous n'allez pas à l'université, vous avez passé 2 ans de formation pour que vous, qu'on vous donne une salle de classe au
niveau,
un niveau qui vous permet de donner cours à l'enseignement primaire.
Alors,
bientôt, les enseignants vont avoir des tablettes. Il y a certains coins où ils vont avoir des tablettes pour s'auto-former eux-mêmes. Ils se retrouvent régulièrement parce que là-dedans, nous allons mettre le programme et tout pour leur permettre de...
Alors, avant de passer de l'autre côté du standard, il y a cette actualité qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, notamment l'identification des élèves, hein, avec Cerny, où on a vu, en tout cas, beaucoup de journaux en ont parlé, la presse, tant audio que visuelle, ont abordé aussi cette question. Alors, aujourd'hui, nous avons la chance de vous avoir dans ce studio. Qu'en est-il exactement? Est-ce important aujourd'hui d'identifier les élèves, d'attribuer un numéro, et pourquoi les parents doivent contribuer à cette opération?
Non, c'est impérieux. Je ne dis pas que c'est nécessaire ou quoi, je dis que c'est impérieux.
L'opération
est impérieuse. Il faut tout faire pour que nous ayons un fichier. Un fichier où on peut retrouver tous les élèves de la République démocratique du Congo. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'à tout moment, les parents peuvent vérifier effectivement si l'enfant va à l'école régulièrement. C'est un fichier que nous allons avoir. Et ce qui est aussi important, c'est empêcher. Malheureusement, ils le font parfois avec la complicité des parents. Les élèves qui quittent d'une école à une autre, ils n'ont pas réussi dans telle école, ils passent... Pour éviter ça, nous devons impérieusement avoir, d'une manière impérieuse plutôt, nous devons avoir donc un fichier des élèves.
Alors, c'est une question
C'est une question qui a été posée au niveau de la promotion scolaire nationale.
On organise
ça au mois d'août. La question a été posée entre parents et les gestionnaires, ils ont convenu de la nécessité ou bien de caractère impérieux d'avoir ces fichiers. Comment le faire? Malheureusement, nous avons été abordés par des parents ainsi que certains honorables députés qui nous ont alertés sur l'opération qui s'est faite pour la paye de prêts pour l'identification des élèves. Je crois que nous avons donné des instructions pour qu'on mette fin à ça. Donc, je crois que c'est notre ami Franck qui nous dit qu'il faut qu'on rembourse. Bon, c'est vrai. Si on a supprimé, si le secrétaire général a annulé lui-même sa note circulaire, il faut nécessairement qu'on rembourse. Mais l'opération, le secrétaire général doit réfléchir avec les parents la meilleure manière de faire pour que nous ayons...
Voilà, on va prendre Michel qui est à Lubumbashi, Dona à Kinshasa. Michel, vous êtes avec nous à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue. Ta parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur J.R. Ici Michel Kabé à Lubumbashi. J'aimerais poser une petite question à son excellence, monsieur Macaire, qui est sur place avec vous là-bas. Quand est-ce qu'il faut parler vraiment du taux de scolarisation? C'est les 3 premiers mois de l'entrée scolaire ou c'est le dernier mois de l'année, de la fin de l'année plutôt? Alors, ce n'est pas le nombre d'enfants qui sont vêtus en uniforme, qui ont un cartable, ce qui est le soubassement du taux de scolarisation des enfants, parce qu'il y a une histoire maintenant, nous voyons beaucoup d'enfants le 2-3 premiers mois de la rentrée scolaire, bien vêtus, et quelques temps après, ils sont retournés à la maison. Je ne sais pas sur quoi ils se basent pour avoir ce taux de scolarisation. Aussi, le récipient de professeurs qui ont vraiment pris du temps. Ça fait peut-être depuis 1988, tout ça, il y a un professeur de l'école primaire qui y est toujours. Le professeur ne donne pas cours par expérience. Est-ce qu'il suit aussi le nouveau programme national qui est donné? Et aussi, j'ai une dernière proposition à faire à son excellence. C'est que quand nos grands frères ou nos collègues qui terminent à l'université, pourquoi ne pas créer quelque chose de meilleur pour faciliter l'emploi chez les Congolais, indiquer les responsables de grandes sociétés de mining ou quoi que ce soit, d'assister à la défense, et cela aussi peut permettre que les jeunes gens
puissent
se trouver un emploi.
Oui, merci Michel.
Michel ?
Présent.
Alors, vous êtes à Lubumbashi. Il y a un auditeur qui a évoqué la réalité de Lubumbashi aujourd'hui, qui compte un nombre important des écoles privées. Est-ce que vous confirmez cette réalité ? Alors, comment l'enseignement est donné sur place ? Est-ce un enseignement de qualité ? Au niveau de multiplicité des frais, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un désordre aussi au niveau de Lubumbashi ?
Il a bien dit, mais il n'a pas tant dit. Ce qui est vrai, qu'il y a beaucoup d'écoles de privées, il y a beaucoup d'écoles privées où je ne suis pas vraiment sûr que les responsables au niveau national ou provincial viennent pour établir certaines disciplines et où les enfants y vont.
Voilà, donc pour vous, l'État n'est pas regardant par rapport à ce qui se passe normalement à Lubumbashi, à ceux qui connaissent en fait ce phénomène d'un boom hein, au niveau de la promotion privée dans l'enseignement. Merci beaucoup à Michel. Dona, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Dona et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci beaucoup, M. le journaliste, de vous saluer aussi.
Merci. Quel est votre avis ?
Je voudrais d'abord commencer par remercier et surtout féliciter l'excellence parce que chaque fois que nous avons besoin de lui, on a des préoccupations. Il a toujours été disponible et disposé à pouvoir répondre à cela. Quand cela ne tienne, je voudrais directement passer à ces préoccupations. Excellence, l'année passée, vous êtes battu pour les problèmes du renvoi des enfants de l'école. Vous avez fait un grand lobbying de manière à ce que les écoles respectent les consignes, qu'il n'y ait pas de renvoi. Mais cette année, j'ai comme impression, excellence, que vous avez un peu baissé et que les préfets, les chefs d'établissement ont recommencé la même chose. Ça, comme ça a été dit l'année passée, c'est aussi l'un des facteurs qui font que les enfants n'aient pas une bonne formation parce qu'ils sont chassés de l'école. Au finish, les parents payent quand même les numéros et les professeurs ne reviennent pas sur les matières que les enfants ont ratées. Et ça, cette année, j'ai comme impression, je dis bien, j'ai comme impression que vous avez un peu relancé et ça, ça a repris. Ça, c'est la première préoccupation. Ma deuxième préoccupation est la toute dernière, excellence. D'autres milliers estiment que dans la construction des écoles, les 1000 écoles dont il est question, il semblerait que vous êtes en train de tenir compte des clivages politiques. Il y a d'autres endroits lorsque vous estimez qu'il y a un leader politique qui n'est pas de tel ou tel autre champ de notre obédience, on ne peut pas construire des écoles dans cet endroit-là. Ça inquiète un peu parce que la formation dont nous sommes en train de chercher tous doit être une formation intégrale pour tout le monde et cela ne peut pas être infecté par rapport au privage politique. Alors, excellence, à mes deux préoccupations, je voudrais un peu savoir quelle est votre réponse.
Merci beaucoup, Dona, d'avoir appelé de Kinshasa. Nous retenons que pour vous, vous insistez sur la politique mise en place par le ministère de tutelle pour permettre à ce que le promoteur ne puisse pas envoyer les écoles en plein les enfants donc en pleine année scolaire, soit pour n'avoir pas payé les frais scolaires, soit pour une autre raison quelconque que eux-mêmes connaissent. Il y a également cette participation intempestive des enfants dans l'enseignement parce que en fait ils n'ont pas payer tel frais ou tel autre. Et vous avez insisté sur l'aspect politique. On a politisé l'enseignement aujourd'hui, ce qui fait qu'on construit une école dans tel coin parce qu'il y a un honorable député, il y a tel ministre et qui appartient à la majorité présidentielle et pour question de visibilité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même l'opération n'atteint pas les résultats escomptés. Merci beaucoup, Dona, d'avoir appelé les Kinshasa. Alors, on va prendre Jiresse qui est à Bandundu. Jiresse, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, je vais vous garder la ligne parce que cette préoccupation, le ministre va répondre rapidement, c'est ça.
Oui. Ok, merci beaucoup.
Gardez la ligne, je laisse.
Oui, merci beaucoup. J'aimerais, parce qu'il y a tellement de questions qui sont posées, je n'arrive pas à satisfaire le
sujet. Tout à fait, oui, allez-y.
Il faut que je vous donne l'information.
Allez-y, nous avons quelques dernières minutes pour nous.
Voilà, donc, je voulais dire, en ce qui concerne notre ami Michel, qui a appelé de Lubumbashi, pour dire que. Je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait une confusion entre les taux de scolarisation et les taux d'inscription. Et nous faisons la différence entre les deux. Les taux de scolarisation, c'est les taux de ces enfants qui fréquentent réellement l'école. On prend ceux qui entrent et on prend certaines données à la sortie, donc à la fin de l'année scolaire. Donc, en ce qui concerne, je veux dire qu'il y a les taux d'abandon aussi qui ont sensiblement baissé. Puis, comme garçon, les taux d'abandon ont sensiblement baissé. Donc, nous essayons par tous les moyens de garder le plus longtemps possible les enfants à l'école. En ce qui concerne les écoles privées, c'est la même chose. Donc, les inspecteurs passent pour vérifier la qualité de l'enseignement. Bon, ça peut, les inspecteurs peuvent avoir certaines difficultés ou ils peuvent ne pas passer à l'école. Parce que nous avons quand même un taux, les ratios entre enseignants et inspecteurs, nous avons encore beaucoup de difficultés. Il faut que nous ayons beaucoup, beaucoup plus d'inspecteurs pour toutes les écoles, pour que toutes les écoles soient visitées. Mais j'insiste sur le fait que les parents, moi en tout cas, si je constate, j'ai ma fille, je constate que elle ne me donne pas de bons résultats. Elle ne sait pas lire. Le lendemain, j'envoie toujours mon épouse
les numéros
à l'école.
C'est là où
ah, voilà. Donc, il faut rentrer à l'école, vérifier qu'est-ce qui se passe au niveau de l'école. Beaucoup de parents ne savent même pas où étudient leurs enfants. Non, nous devons partager de côté la responsabilité. Je prends notre ami Donna, et je fais ça, sur la disponibilité. Je n'ai pas de choix. Nous gérons un secteur qui nécessite vraiment l'écoute. Nous devons écouter les parents, leurs doléances pour améliorer notre manière de travailler. Et toutes les données qu'ils nous donnent ici, excusez-moi de la redondance, vont nous servir. Par exemple, quand il dit, en ce qui concerne les renvois des enfants de l'école, il dit, bon, peut-être qu'on a négligé, dès qu'on sort de votre bureau, en tout cas, les instructions seront données pour que partout, qu'on envoie des gens pour qu'on ne sorte pas les enfants à l'école. Il a raison. L'enfant qui rate la matière parce qu'il n'a pas payé les frais. Et j'ai toujours demandé, c'est toujours aussi les parents qui peuvent nous aider, surtout pour la ville de Kinshasa et la ville de Lubumbashi. Nous avons demandé à ce que chaque école ait un compte en banque. Et c'est les parents qui doivent verser l'argent au niveau de la banque pour permettre à l'enfant d'être calme, d'aller étudier. L'enfant n'est pas un agent payeur pour amener les frais au niveau de l'école. Nous avons pris cette décision. Nous insistons, nous continuons. Il y a certaines écoles qui les font, et là, les choses se passent très bien. Nous devons continuer, et les parents doivent nous aider à ce que cela se passe. De toute façon, en sortant de cette émission, de ce studio, nous allons vraiment prendre langue avec nos collaborateurs qui sont sur place pour qu'on ne fasse pas les enfants à l'école. En tout cas, en fait, concernant la construction des écoles, non. Nous recevons la liste pour la construction des écoles nous provient de la province. C'est la province qui nous donne la liste, nous construisons. Et effectivement, quand nous allons dans un milieu,
rassurez les docteurs qu'il n'y a pas de
financement. Non, pas du tout. Pas du tout.
Pas contre la majorité.
Non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est vrai que quand nous allons sur le terrain, et nous rencontrons tous les députés qui sont là, c'est lui qui est disponible pour nous permettre à transmettre le message aux parents sur l'importance de l'école.
Alors, il nous reste 15 dernières minutes, nous allons juste vous l'accorder pour que vous reveniez sur ça, pour mettre un point final à ce débat. Alors, il faut encore merci de votre fidélité à Radio Capu, mais d'ailleurs merci de nous rejoindre. Je dirais si vous êtes à Bandundu et puis King à Kinshasa. Alors tout à l'heure, monsieur le ministre, vous parlez de cette opération construction de 1000 écoles. Alors, le débat aujourd'hui, c'est les clivages politiques. On fait cadeau à tel député qui est dans tel coin, on favorise une grande dame d'un coin qui n'est pas de la même obédience pour le parti de la majorité.
Non, vraiment, je tiens à, là, vraiment, je suis assez dur là-dessus. On ne peut pas faire des choses comme ça. C'est comme si on pouvait même aller beaucoup plus loin pour dire qu'il n'y a que les enfants de gens de la majorité ou de l'opposition qui vont faire. Il ne faut pas qu'on amène ces histoires-là au niveau de nos écoles. Quand les listes pour la construction des écoles proviennent de provinces, ce sont les provinces qui nous disent voilà, vous pouvez construire l'école à tel ou tel endroit. Et ça, après avoir entendu les comités de parents, les chefs du village et autres, nous avons des données là-dessus. Et une fois que nous arrivons, c'est normal, nous le faisons souvent. Je sais par exemple que j'ai besoin de la scolarisation de la jeune fille, comme il est dit. Généralement, nous amenons parfois dans notre tournée, nous pouvons amener une députée femme et tout ça, pour qu'elle transmette le message, pour encourager les parents à amener leurs enfants à l'école. On amène parfois des leaders d'opinion pour transmettre un message sur l'importance de l'éducation. Et on le fait. Et on l'a fait à l'Équateur. Nous sommes allés avec une majorité opposition. Ça ne, c'est ça pas ça le problème. Il faut vraiment éviter d'amener ce discours au niveau de.
Alors, je voulais avoir aussi votre appréciation par rapport à une question qui est aussi très, très, très pertinente. Il faudrait que les auditeurs soient éclairés. Les objectifs du millénaire pour le développement, aujourd'hui les ODD. Alors, nous avions un rendez-vous
en 2015. Est-ce que vous pouvez vous-même faire une petite appréciation par rapport à ces objectifs, la lutte telle que menée en République démocratique du Congo aujourd'hui?
On n'a pas atteint les OMD. La RDC n'a pas atteint les OMD. Je vous ai dit, tous ces grandes dirigeants de l'éducation qui nous ont visités, c'était pour dire, vous avez fait d'énormes efforts. C'était impressionnant les efforts que nous avons en une année ou en deux, trois ans, récupérer 2 millions d'élèves. C'était extraordinaire. Et ça, ce n'est pas venu du gouvernement congolais. Ils sont venus pour dire bravo, mais on n'a pas atteint les objectifs. Voilà. Maintenant, au Congo, il n'y a qu'une province qui a obtenu les objectifs du millénaire pour le développement. C'était les Bandundu, où le taux de scolarisation est vraiment très élevé. Et là, beaucoup d'enfants vont réellement à l'école. C'est la seule province à la République démocratique du Congo qui...
Même pas qu'il fait ça.
C'est la province de Bandundu.
Alors, je reste parce que vous êtes dans le Bandundu. Je reste. Vous êtes à Bandunduville. Vous allez peut-être nous donner quelques précisions là-dessus. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Merci beaucoup, monsieur Gir, pour la parole. Je salue monsieur le ministre, qui est l'invité de la radio Papi. Et monsieur le journaliste, d'entrée de jeu, je dirais que lorsqu'on parle de l'enseignement, de loin ou de près, tout le monde est concerné et doit s'intéresser au sujet. Alors, et après avoir pris sa douche et fait son maquillage, toute femme finit par se regarder au miroir pour voir ce qui vaut son apparence. Au finish, c'est le compliment des observateurs, surtout des hommes qui la rassurent qu'elle est belle. De même, un gouvernement qui se fixe des objectifs par son projet de société a besoin d'un thermomètre qui lui permet de pouvoir évaluer les niveaux d'exécution de son action. En l'occurrence, la communauté internationale ainsi que les différents partenaires, surtout si ces derniers sont plus expérimentés. Alors, ce que nous venons d'entendre est une preuve vivante qui montre que, même si dans certains domaines, les gens crient toujours au manque de volonté politique, mais ça n'est pas le cas dans les domaines d'éducation. Oui, parce que nous avons vu les différentes réformes initiées et atteindre leurs objectifs. Mais nous devons aussi nous poser une question, à qui le mérite? Moi, je crois que si nous devons être sincères, le mérite, c'est d'abord au sommet de l'État et à l'ensemble du gouvernement, ainsi, et surtout en particulier à M. le ministre de l'EPSP, ainsi qu'aux différents partenaires, en l'occurrence l'UNESCO, avec son slogan « Toutes les filles à l'école ». Alors, nous voulons dire par là que nous avons atteint la perfection, car il y a beaucoup de choses qui doivent encore être faites.
C'est tout à fait.
Permettez-nous de vous dire que dans la bande de nous ici, qui est le chef de la province du Kwilu, il y a certaines écoles, publiques comme privées, qui fonctionnent dans des conditions antiques. Et cela est vraiment inacceptable. Et nous demandons à M. le ministre, qui est le représentant du gouvernement dans ce secteur, de pouvoir vraiment prêter attention à l'enseignement, surtout aux infrastructures scolaires ici à la ville de Bandundu. Mais, monsieur le journaliste, si vous permettez, il y a quelque chose que nous déplorons. Il y a ceci, le niveau moral et a perdu sa place dans notre éducation. Et nous nous posons beaucoup de questions, mais avec mes analyses personnelles, je pense que c'est parce que le cours de civisme qui a une notion irrelayée à la réflexion. Alors si M. le ministre peut revoir la pondération du cours de civisme, je crois que cela nous permettrait de pouvoir voir encore au pied des niveaux moraux de nos élèves et de notre
enseignement. Merci beaucoup,
intervention.
Merci beaucoup. Je reste au point King, qui est à quelque chose, on va terminer avec lui, et puis on va conclure avec notre invité. King, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, JR, bonjour à notre invité.
Vous avez la parole, quel est votre avis, King?
Je voudrais d'abord saluer les avancées que notre système éducatif est en train d'enregistrer. Et quoi qu'il en soit, je crois que comme pour toute chose, il reste toujours des défis à relever. Et je voudrais partager un peu ma préoccupation autour des trois axes. Le premier, c'est que la pratique enseignante aujourd'hui n'inspire pas confiance pour obtenir la qualité de l'éducation que nous voulons. Je voulais dire que les processus d'enseignement et d'évaluation dans nos écoles laissent à désirer. Et le type d'intelligence qu'on privilégie ne permet pas aux éduqués d'avoir un esprit critique, envie de créer, d'imaginer et de faire développer notre pays. D'ailleurs, monsieur le ministre est là, c'est la raison pour laquelle on a révisé la loi cadre et tout est supprimé là-dedans, mais malheureusement, les mesures d'application prennent. C'est quoi qu'on dirait dans ce sens-là que personne ne donne ce qu'il n'a pas. Les enseignants, heureusement que monsieur le ministre a parlé de la politique de la recette qu'ils sont en train d'envisager, et les enseignants, le corps enseignant doit être renouvelé si on veut obtenir la qualité. Parce que les gens qui sont formés aujourd'hui peuvent venir donner un nouveau souffle au style, à la manière.
Merci beaucoup, King, d'avoir accepté de revenir sur ce que certains de vos prédécesseurs avaient déjà abordé. Alors, monsieur le ministre, on va conclure cette émission avec vous, avec d'abord votre réaction par rapport à cette dernière série des auditeurs. Et puis, nous allons vous poser deux, trois questions. Précisément, et avant de terminer cette émission.
Merci beaucoup, Jérès.
Je le remercie pour tout ce qu'il a dit. Bon, il donne l'exemple de ces écoles qui sont dans les mauvais états. Je suis en train de le dire, nous avons beaucoup, beaucoup d'écoles.
Nous n'avons que 30% qui sont dans de bonnes, qui présentent les normes d'école. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas former et recevoir nos enfants. Nous les recevons dans des conditions telles qu'ils sont, en fournissant des efforts pour que nous améliorions leurs conditions de travail. Il y a un projet très important que le président de la République a lancé sur la distribution des tôles. Voilà, les tôles sont dans toutes les provinces pour pousser aussi les communautés à aider le gouvernement dans l'amélioration des cadres d'enseignement des élèves. Donc, ce sont des initiatives qui sont prises pour faire voir à la communauté qu'on ne peut pas améliorer ses conditions seules. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Il faudrait que de temps en temps, tout le monde s'implique. Les cours de civisme et morale, nous l'avons. Bon, la question qu'il pose, c'est une question technique. Nous allons voir comment on peut résoudre ça. Il y en a qui pensent qu'on peut, par exemple, améliorer. Nous avons introduit les cours de lecture et l'écriture. Nous sommes en train d'améliorer les cours de mathématiques et sciences. Nous sommes dans la grande réforme pour améliorer les cours de sciences et de mathématiques. Nous ajoutons aussi le civisme et le moral. Là, nous sommes en train de distribuer les manuels dans les écoles. Voilà. Ce sont des choses que nous faisons et ce sont des socles sur lesquels nous allons bâtir le Congo de demain. Bon, King a raison sur la pratique. On ne peut pas améliorer la qualité sans enseignants. C'est pourquoi je vous ai dit que la stratégie décennale que nous venons d'aborder maintenant et surtout les quinquennats de la qualité que nous venons aussi de lancer repose sur un élément important, c'est l'enseignant. Et pour l'enseignant, nous disons il faut le former, il faut le recycler, il faut tout faire pour que cet enseignant ait la formation qu'il faut. Et pour ça, il faut que certains aillent en retraite et ceux qui viennent aient la formation qu'il faut. Et nous sommes en train de réformer la formation initiale, notamment les humanités pédagogiques qui nous donnent les enseignants du primaire. Nous sommes en train de voir comment on peut refaire ça. Et je vous ai dit que nous allons créer un projet pilote sur les instituts de formation des maîtres auxquels l'enseignant ne peut donner cours s'il ne passe pas par ces instituts. Je crois qu'avec ces mesures, c'est vrai que ce n'est pas du jour au lendemain que ça va changer. Ça va quand même prendre beaucoup de temps. Je voulais, avant de terminer hier, remercier encore une fois Omar qui m'a fait de très très bonnes propositions. Et dire aussi à Adrien que pour Il est beau, ce n'est pas seulement une école, la cité. Il peut aller à Mapangu, il peut aller au sud Banga, il peut aller aussi à Basongo
et Banga.
Ba et sud Banga, je crois qu'il y a même Malumalu, je crois qu'il y a quelque chose que nous sommes en train de faire aussi de ce côté-là.
Alors je dis en lisant le compte Twitter du Premier ministre, il a été dit qu'il reste encore des défis, comme vous l'avez aussi dit tout à l'heure, 3 500 000 d'enfants à scolariser, la construction de plus de 20 000 écoles pour l'émergence 2030, ça demande un budget, en une phrase. Est-ce que l'enseignement a un budget à allouer?
En tout cas, pour le moment, comme c'est devenu une priorité dans la vision du président de la République, nous avons aujourd'hui la plus grosse part du budget de l'État, c'est réservé à l'éducation. Malgré les difficultés qu'on a aujourd'hui de recettes, l'éducation constitue toujours une priorité.
Makir Mwangu Famba, ministre de l'Enseignement, merci d'avoir accepté votre invitation.
Merci beaucoup, JR. Merci à Radio Capi pour cette opportunité. Merci aussi aux auditeurs.
Allô? Allô? Allô?